numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numéro 1.
This is Europe number 1.
À cette heure-ci, Maurice Sigel, je me retrouve au même endroit où j'étais hier soir, c'est-à-dire à environ 50 mètres de la barricade principale, au coin de la rue Pasteur et du boulevard La Ferrière.
Le jour de la fête à
Ça va, mec?
Oui.
Vos mondes sont là?
Ah oui, on te regarde.
Ça me paraît comment c'est mou, votre émission.
Oh là là! Oh, cette droite terrible de Monzon! Ouais!
Les pompiers sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'écoulement. Merde, pardon. L'éboulement s'est produit pendant la nuit.
Mais dites-moi, de qui la mise en onde?
Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons.
Ah, bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme chaque dimanche matin dans le studio des Enfants d'Europe 1. Nous avons pour habitude d'y recevoir depuis plusieurs mois maintenant des personnalités qui ont signé sur cette antenne, lui ont donné son identité, contribué à son image et forgé sa marque. Nous avons également reçu certains de ceux qu'Europe 1 peut se flatter d'avoir eu et d'avoir toujours comme auditeurs fidèles. Ces hommes et femmes, l'académicien Eric Orsenna par exemple, dont les carrières souvent prestigieuses se sont faites, et c'est notre fierté, en parallèle de la station, main dans la main, presque transistor contre transistor. C'est l'un de ces fidèles auditeurs que je reçois ce matin, un homme de communication et de télécommunication, un pro de l'industrie à qui, avant de vous le présenter, j'ai envie de faire réécouter cet extrait de l'émission animée au tout début d'Europe 1 par Georges Filiou, dont on a parfois oublié qu'il avait été journaliste dans une première vie, et Albert Ducrot, premier consultant scientifique de l'histoire de la radio. Le monde est fantastique, c'était le nom de cette émission, enregistrée avec un public d'étudiants. Et en ce beau jour de 1963, elle était consacrée précisément aux télécommunications.
Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est au son d'un tam-tam que nous commençons cette émission, une émission que nous avons appelée « Paroles en voyage » et qui est consacrée aux télécommunications. Alors pourquoi ce tam-tam ?
Parce que le tam-tam, c'est une forme de télécommunication.
Exactement.
Avec la naissance du téléphone, nous avons assisté à l'apparition d'une véritable industrie des télécommunications. Et dès 1892, la France comptait 24 000 abonnés. Il y en a 100 fois plus aujourd'hui, qui échangent annuellement près de 7 milliards de communications. Dans le monde, en vérité, partout, le débit d'information augmente et va continuer à augmenter à un rythme toujours plus fantastique. Et ce mouvement, évidemment, pose des problèmes considérables. Il s'agit d'éviter sur les lignes les embouteillages que nous connaissons sur nos routes.
Est-ce que vous vous souvenez d'un système qui permet justement d'éviter l'encombrement des lignes et d'utiliser les blancs, les silences qui sont inévitables dans les conversations téléphoniques? Je vois très bien que toutes les mains se lèvent.
Le câble téléphonique,
c'est un robot, c'est une machine électronique.
Branché sur plusieurs lignes, et dès qu'un correspondant s'arrêtait de parler, aussitôt une nouvelle ligne était utilisée.
Exactement.
Cela dit, indépendamment du problème des voies, du problème des lignes pour acheminer les informations, il y a un autre problème qui se pose en matière de télécommunication, c'est le problème des aiguillages, c'est-à-dire comment faire pour faire passer telle ou telle impulsion, telle ou telle communication sur telle ou telle voie qui va lui permettre d'arriver jusqu'au correspondant qu'on veut atteindre.
En termes techniques, c'est la commutation.
Autrefois, tout se faisait à la main, c'était le temps des demoiselles du téléphone avec des fils et des fiches, et aujourd'hui, on peut dire que presque tout est devenu automatique.
Oui, sur les lignes à grand trafic, maintenant, l'automatique est roi. Avec son célèbre cadran, il crée des impulsions, et ces impulsions commandent dans un central le travail de véritables moteurs qui travaillent en quelque sorte pas à pas. Chaque impulsion fait tourner d'un cran un bras qui se déplace devant une série de contacts. Ainsi, 7 trains d'impulsion font marcher 7 bras capables de choisir des aiguillages parmi 10 millions de directions possibles.
D'ailleurs, nous allons suivre notre reporter Maurice Lemay dans les coulisses d'un central automatique pour apprendre ce qui se passe lorsque nous composons un numéro sur le cadran de notre appareil.
Monsieur Schwab, vous êtes le directeur de ce central archive.
Qu'est-ce que c'est que cet appareil que nous avons devant nous?
L'appareil que nous avons devant nous, c'est un enregistreur. C'est-à-dire un appareil destiné à recevoir le numéro de l'abonné et à aiguiller la communication par diverses sélections vers l'abonné qui se trouve demandé. Alors vous venez d'entendre les bruits des pas à pas de réception des impulsions. Maintenant vous entendez des chercheurs tourner. Ce sont des recherches qui permettent justement de concentrer le trafic vers les enregistreurs que l'on vient de voir.
Et partant, dans l'avenir, on remplacera peut-être notre cadran actuel qui est volontairement lent par un système de touches.
En conclusion, le monde fantastique arrive maintenant à l'âge d'une véritable civilisation de l'information.
Bonjour Didier Lombard.
Bonjour Marc Ponchaud.
Enfant d'Europe 1, vous allez nous dire depuis quand? Aujourd'hui président de France Télécom, ce qui explique cet extrait que nous venons d'entendre et qui bien sûr est un clin d'œil ou un clin d'oreille, mais il faut savoir d'où l'on vient. Vous êtes un spécialiste du tam-tam moderne, Monsieur Lombard.
C'est mon métier. Les éléments numériques qu'on transporte sur les réseaux, c'est jamais que des coups de tam-tam, un peu rapides, puis on les entend pas, mais enfin c'est pareil.
Un mot de cet extrait.
C'est très amusant parce que la première évocation d'un système là qui permet de partager des lignes entre plusieurs conversations, c'est ce qu'on faisait sur les câbles transatlantiques pour augmenter la capacité. Ce qui est amusant, c'est que la voix sur Internet, la voix sur IP qu'on a en ce moment qui est en plein essor, c'est jamais que la généralisation de ce principe-là sur toutes les voies de tout le réseau. Et donc, c'est un peu une boucle, hein. Vous avez évoqué quelque chose qui date de beaucoup d'années. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est la même chose, mais partout sur tous les réseaux. Donc, il y a une certaine cohérence entre ce que racontez les voix augustes que vous avez passées.
Albert Ducrot.
Albert Ducrot qui a fait toute l'éducation des générations de cette période-là, les éducations scientifiques. C'était bien fait le sujet, hein, parce que quand on sortait de là, on comprenait comment ça se passait.
Et là, c'est un extrait, hein. Parce qu'il y en a normalement une demi-heure d'émission.
Ouais, mais j'ai été intéressé. Je reconnaissais les autocoms, les strogères, etc. C'est très bien fait.
Il faut savoir d'où on vient, Monsieur Lombard. Toujours, jamais l'oublier.
L'histoire est un perpétuel rebouclage, c'est-à-dire que pas au niveau des équipements, qui deviennent obsolètes assez vite, mais par contre sur la philosophie de la communication, ça revient toujours au même. On a évoqué pendant l'extrait les premières communications, oui. On parlait du tam-tam, mais en fait les vraies premières communications, c'était des signaux de optiques. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tout passe sur des fibres optiques. Donc l'histoire est un perpétuel renouvellement.
Elle vous vient d'où cette passion pour les technologies et peut-être celle-ci en particulier?
Je crois que d'abord j'ai une formation scientifique.
On va y revenir.
Et puis je suis tombé dedans quand j'étais petit puisque j'ai commencé ma carrière au centre de recherche de France Télécom. J'ai commencé en 67, c'est-à-dire juste avant mai 68, qui a été une période par rapport à au thème de votre émission, c'est une période chaude. Bon. Et là, c'était toute la transition technologique entre le téléphone que décrivait Albert Ducrot dans votre extrait, puis le téléphone numérique qui arrivait. Et quand on était chercheur dans un centre de recherche comme celui de France Télécom, on avait une liberté absolument totale pour imaginer, faire des satellites, faire des choses de la fibre, des choses comme ça. Moi, j'ai bénéficié de ça, j'ai eu une chance extraordinaire. Je me suis éclaté en faisant tout ça. Donc, évidemment, quand vous tombez dedans, quand vous êtes petit, vous en sortez comme Obélix, vous buvez plus de potions magiques après, ça va.
L'école polytechnique, c'était votre destin. Vous décidez que vous allez faire polytechnique à quel moment? C'est parce que vous êtes
tôt,
super bon en maths?
Assez tôt, oui. Quand j'étais au lycée de Nîmes, vous savez, c'était des trajectoires assez bien stéréotypées à cette époque-là. Il fallait faire l'X. Quand on était scientifique, on faisait l'X normal, point.
Alors comment on écoute la radio à l'école polytechnique? On va le savoir dans quelques instants, mais après une pause de publicité.
Marc Tronchot.
Retour dans le studio des enfants d'Europe 1 avec un grand patron de la télécommunication, des télécommunications, le patron de France Télécom, Didier Lombard. Et on parlait de l'école polytechnique que vous avez donc faite en 1900, quelle année à peu près?
62. Voilà. C'est pas à peu près, c'est une étiquette qui nous colle toute l'année, oui. Toute la vie.
Et alors, on écoute comment la radio à l'école polytechnique? Expliquez-moi un peu, vous êtes un enfant d'Europe 1, vous le devenez à quel moment?
Si vous voulez, on est à cette époque-là, on vivait dans des locaux qui sont magnifiques, qui sont à la montagne Sainte-Geneviève, le lieu historique.
À Paris, oui.
Et on logeait 200 personnes dans ces locaux-là, donc on était un peu esquichés, hein, comme on dit dans mon pays. Donc on était par 7.
Votre pays, c'est Nîmes, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. On était par 7, il y avait une salle qui servait à dormir, avec des lits alignés, superposés, enfin arrangés comme on voulait, mais on était quand même un peu serrés. Puis en face, il y avait une salle d'études, où il y avait des bureaux et où on était censé piocher les manuscrits qu'on nous donnait. Bon, et alors la radio, qu'est-ce que c'est par rapport à ça? C'est le mode de connexion avec le monde, c'est le mode de distraction, fond sonore et choses du genre. Donc il y avait des petits transistors qui n'étaient pas si petits que ça, mais enfin, et c'est à partir de là que se faisait l'écoute des radios, avec évidemment des batailles entre ceux qui voulaient écouter du grand classique, ceux qui écoutaient les informations, etc. Donc, en gros, il y avait des espaces plus ou moins réservés, des plages dans lesquelles il était conçu que, c'était l'époque des informations, donc là, on écoutait les infos. Bon, et puis, d'autres périodes où c'était la musique, etc. Donc, il y avait un peu... L'atmosphère était un peu chaude, mais c'était plutôt amusant. Et donc, on entendait... C'était Europe Numéro 1 qui avait un peu la vedette, parce qu'en information... Vous aviez à cette époque-là un type d'information qui était, je pense, plus réactif que nos amis des radios publiques.
Donc, mais toujours.
Les gens... j'ai pas dit que ça a changé. des jeunes gens un peu réactifs, ça aime bien ça, quoi.
Alors Didier Lombard, vous rentrez à Polytechnique fin 62, et vous qui aimez l'information et qui écoutez déjà Europe numéro 1, voilà ce dont vous pourriez vous souvenir. Nous sommes quelques mois auparavant, le 8 février, et 9 personnes vont trouver la mort près de la station de métro Charonne à Paris lors d'une manifestation anti-OAS et en faveur de l'indépendance algérienne organisée par le Parti communiste et d'autres organisations de gauche. Témoignages de passants, de participants et explications de la police recueillies par le reporter de l'époque, reporter d'Europe numéro 1, Pierre Bouteiller.
Je rentrais voir des amis, je suis descendue au métro Charonne, il y avait déjà des blessés, des gens par terre, enfin tout ça, la police chargeait et plusieurs ont été écrasés sous le poids des grilles, enfin, il y a eu des coups de matraque, des gens matraqués, je les ai vus.
Vous êtes sûre, madame, vous avez vu deux personnes mortes de vos
yeux? J'en suis sûre.
À 20h, arrivant à Place Voltaire, j'ai vu une section de police de l'ordre d'une vingtaine d'agents, poursuivis par une cinquantaine de manifestants, très jeunes pour la plupart.
Les manifestants semblaient armés, enfin avaient du bout de bois.
Certains avaient des bouts de bois, entre autres des planches de bancs, et tiraient des projectiles dans leur direction. Ça a duré un bon moment. Et alors ces manifestants en ont eu marre au bout d'un moment, se sont arrêtés et se sont regroupés sur le boulevard Voltaire. Un car a surgi et est venu au ralenti se coller sur les manifestants en travers de la chaussée. Et la porte du côté chauffeur a été ouverte d'un seul coup par un des manifestants. Le chauffeur, plus ou moins désemparé, a essayé de faire quelque chose, mais il n'y a pas réussi. Il a été matraqué par les manifestants, qui étaient 4 ou 5 à taper sur lui. Il a sorti son arme, il a tiré vers les manifestants, et il a sûrement vidé son chargeur.
Lorsque nous sommes arrivés sur le boulevard Voltaire, les hommes ont été placés en ligne face aux manifestants, environ 200 mètres. Nous avons parcouru le chemin à pied jusqu'à... à peu près environ 50-60 mètres. Arrivé à 50-60 mètres, nous avons vu les manifestants qui commençaient à crier en avant, notamment sur les ailes. Alors, les manifestants ont avancé sur les ailes vers nous. Il a fallu à ce moment-là donc, aux gardiens, le pas de course et de prendre contact avec les manifestants. Le choc a été assez dur, car arrivé à environ 10 à 15 mètres, peut-être 20 mètres, les manifestants nous accueillaient à coups de pierre.
Y avait-il des CRS engagés?
Pas à cet endroit-là. Pas du tout boulevard Voltaire, je peux vous l'affirmer d'une façon formelle.
Ce qui nous a surpris, ce qui m'a surpris beaucoup, c'est de voir qu'au moment où nous descendions des cars, des étages, des pots de fleurs nous étaient jetés dessus. Je n'aurais pas pensé que dans le boulevard Voltaire, on trouve, ma foi, une animosité pareille contre un service d'ordre.
Certains insinuent, monsieur le directeur général, que dans certains quartiers, des commissaires ont été un petit peu dépassés par leurs hommes. Qu'en fait, si vous voulez, des groupes de gardiens de la paix ont profité de la situation pour se livrer à des violences anormales.
Il m'est facile de vous répondre. Avant que vous arriviez, nous parlions de cette situation justement parce que c'est souvent mon souci. Et mes chefs de service qui sont ici m'ont au contraire affirmé que les unités qu'ils avaient, dont ils avaient hier le commandement avaient fait preuve d'une homogénéité absolument totale. Et qu'il n'y avait pas eu, comme on le voit parfois, c'est exact, ça s'est déjà produit. Mais nous luttons contre cette tentation de gens qui se laissent parfois entraîner dans la poursuite. Donc, cette question-là, je l'ai évoquée avant votre arrivée tout à l'heure, et je peux donc vous répondre facilement qu'il n'en a rien été.
Ça évoque quel souvenir pour vous, Didier Lombard, l'Algérie et toutes ces manifestations, tous ces événements dramatiques qui marqueront cette période?
D'abord, l'épisode que vous venez de passer, j'étais en classe préparatoire à Marseille. Mmh. Et Marseille était quand même la ville de passage des gens qui rentraient d'Algérie. C'était une plaque tournante. Donc, alors qu'on était en taupe, donc le nez sur notre guidon et qu'on sortait pas la tête pour regarder l'information, parce qu'à cette époque-là, c'était un peu intense comme travail. Là, cet événement-là avait un peu mis de l'émotion dans le lycée, hein, parce que il y avait d'abord les reportages qui arrivaient, on comprenait pas bien ce qui se passait, et puis surtout, il y avait une partie de la population qui venait de rentrer ou qui était en train de rentrer, qui commençait à bouger. Qui était un peu ému par la situation. Donc, même dans une atmosphère un peu de monastère qui était la taupe, ça avait quand même fait réagir les gens.
Et plus tard, à Polytechnique, quels événements importants vont marquer vos souvenirs ?
Pendant les deux ans que j'ai passé là, l'événement hyper marquant, c'était l'assassinat de Kennedy. Ça, c'est arrivé comme une bombe, donc en 63, là. Et donc, dans la vie de l'école, ça, vraiment, ça a été un événement qui a, d'un seul coup, entraîné des tas de discussions internes, des petits groupes qui se réunissaient, qui essayaient d'anticiper. Vous savez, à cette époque-là, on croyait qu'on faisait de la géopolitique en chambre, donc on essayait de comprendre ce qui allait se passer. Et là, ça a vraiment marqué parce que, pour des jeunes gens comme nous, l'idée d'assassiner un chef d'État, c'était quelque chose, surtout dans un pays aussi développé que les États-Unis.
Totalement impensable.
Impensable. Donc d'un seul coup, on a été précipité dans un univers qu'on n'anticipait pas du tout. Et donc là, vraiment, ça a fait beaucoup d'émotions, surtout pour des jeunes gens qui allaient rentrer dans la vie active un an plus tard. Ils se sont dit, tiens, le monde est pas du tout comme je pensais. Donc tous les gens qui étaient en train de se précipiter, de se dire, tiens, je vais faire des stages aux États-Unis, un grand président très puissant, tatitata. Bon, enfin,
tout d'un coup, une réalité
d'un seul coup, la réalité est un peu différente. Mmh. Et là, les gens ont commencé à essayer de comprendre pourquoi, quels étaient les champs de pression, quels avaient été... Bon, on n'a pas refait le rapport Varenne, le rapport avant, mais ça a quand même drôlement secoué la maison.
On se retrouve, Didier Lombard, après quelques publicités.
Marc Tronchot.
Retour avec les enfants d'Europe 1 et l'un d'entre eux, le patron de France Télécom, Didier Lombard. Quand on parle à un polytechnicien, Didier Lombard, on est à peu près sûr qu'il n'a pas besoin d'acheter un poste récepteur parce qu'il saura plus facilement s'en construire un. C'est votre cas, non? Racontez-moi cette histoire d'un poste radio que vous avez retrouvé récemment.
Il est toujours en service d'ailleurs, mais comme le système pour bouger les aiguilles marche plus, il est bloqué sur Europe 1. Donc là, vous êtes tranquille, je peux pas aller sur une autre chaîne. Je suis incapable de le réparer. Non, à cette époque-là, il y avait des petits magasins dans Paris où vous achetiez des composants électroniques et puis vous pouviez vous construire votre poste. Ce que j'ai fait à cette période-là, parce que c'était amusant. Bon. Et on avait son transistor homemade, alors qu'il y avait des tas de qualités supplémentaires par rapport à tout ce que vous trouviez dans le public. Les haut-parleurs étaient plus puissants, il y avait un certain nombre de gadgets. Bon, et récemment, je l'ai retrouvé, il est dans mon garage, et je m'en sers quand je suis en train d'entretenir mon tracteur, j'allume, il est juste à côté.
On va revenir sur votre tracteur tout à l'heure. vous continuez à construire vous-même vos...
Ah là, j'ai plus le temps.
Non.
Et puis, je pense que les boutiques dans lesquelles on vendait les éléments, ça n'existe plus. Tout ça, c'est intégré, ça tient dans l'espace d'une puce, donc c'est plus possible.
En 67, vous débutez au Centre National d'Études des Télécoms, c'est aussi l'année où les télécouleurs arrivent en France, sous l'œil de Sylvain Floira, patron d'Europe 1, lui aussi industriel inspiré.
Quelle est la première constatation que font les gens qui voient pour la première fois la télévision en couleur?
Eh bien, à mon avis, elle est plus favorable que ce qu'ils pensent eux-mêmes avant de l'avoir vue. Ils pensent que c'est un coloriage, n'est-ce pas? C'est-à-dire des couleurs, et pas en couleur.
Les appareils sont maintenant parfaitement disponibles sur le marché.
Oui, maintenant ils sont préférés. Et M. Floira, d'ailleurs, qui s'occupe particulièrement, vous savez, du développement industriel de la couleur en France, peut vous répondre sur tous ces points.
Actuellement, dans le commerce, je crois qu'il n'y a que du 25 pouces, c'est-à-dire l'appareil le plus grand. Le tube est produit en série Et ensuite, les appareils qui se trouvent actuellement dans le commerce, c'est absolument du cousu main, n'est-ce pas? C'est fait à l'unité, ce qui justifie, n'est-ce pas, le prix élevé de ces appareils. Mais certainement qu'au mois de septembre, le prix se normaliseront parce que les chaînes seront prêtes à fonctionner dans toutes les maisons. Nous pensons qu'on pourra avoir un 19 pouces, c'est-à-dire le petit appareil, aux environs de 400 000, n'est-ce pas? Et le gros aux environs de 500 000. Nous supportons en France un handicap absolument terrible, n'est-ce pas? C'est que notre taxe est à 25%, quand elle est à 10% en Allemagne et 15% en Angleterre.
Vous vous souvenez de votre première télévision couleur, mais aujourd'hui on a l'impression que c'est normal, mais ça venait après combien d'années de noir et blanc?
Alors, c'est intéressant, le noir et blanc a mis 25 ans pour s'installer. Donc, ça a été long. La couleur, une petite dizaine d'années. Les postes couleur pour supplanter les postes noir et blanc, à tel point que vers la fin, la production des postes, quand vous achetiez un poste noir et blanc, en fait, c'était un poste couleur dont on avait retiré une patte à la fin, parce que le processus industriel faisait que c'était trop cher de produire des postes spécifiques noir et blanc. Et là, on est juste en ce moment, à la veille de vraiment l'essor complet de la TV HD, et nous pensons que ça va prendre 6 ans. Et dans 6 ans, les postes ordinaires vont disparaître et on sera tous en TVHD.
Cette compression du temps avec le progrès, ça peut se mettre en équation?
Sur les composants électroniques, on a une équation simple, c'est tous les 3 ans, la vitesse double. Donc, ce qui explique que, tout ça, ça va... À chaque fois, on se dit, on arrive à une asymptote, on va pas y arriver, ça... On voit pas comment on pourrait aller plus loin, et à chaque fois, les gens qui disent qu'il y a une limite sont enfoncés par la réalité.
Donc de plus en plus, on va gagner du temps.
Absolument. Donc je refuse maintenant de considérer qu'il y a des limites. Je pense que là, on est parti pour la télé couleur, TVHD, et puis je suis déjà en train de préparer le coup d'après. Je dis, on va aller à la télé relief. Et ça va prendre encore quelques années, mais ça va aller plus vite qu'on prévu.
Donc l'image, ça vous intéresse autant que le son, en fait?
J'adore l'image, oui. D'ailleurs, sur mes réseaux, maintenant, ils passent quand même beaucoup d'images.
Oui. Vous transportez le son à Europe aussi, on transporte le son. Un an plus tard, par rapport à cette année qu'on évoquait, 67, voilà ce qu'on peut entendre sur les ondes d'Europe numéro 1.
Camarades, partout, dans tout le quartier latin, il a été construit des barricades. Je crois que... Je veux pas engager à la bagarre. Je crois qu'on est appelé à passer la nuit.
Des CRS sur quelques étudiants qui restent maintenant comme ça dans des petits groupes isolés et qui sont pourchassés dans les rues par les CRS. Mais ce qu'il y a de plus impressionnant maintenant que le jour se lève, c'est de voir les rues du quartier latin actuellement où des centaines de voitures sont en train de flamber. Et j'ai vu tout à l'heure un capitaine de pompiers qui m'a dit on n'arrivera jamais au bout. Alors de toute façon maintenant il laisse brûler ces voitures car ils ne peuvent plus suffire, ils ne sont pas assez pour éteindre tous ces incendies qu'il y a dans les rues du quartier latin. Disons pour ce qui concerne la bataille, parce qu'on peut parler d'une véritable bataille, disons qu'elle semble se calmer un tout petit peu. Je vous le dis, les forces de police pourchassent dans les rues des petits groupes d'isolés d'étudiants qui essaient de se réfugier comme ils peuvent, et la plupart du temps dans les hôpitaux ou dans, comme à la Fondation Curie, là, qui est à côté de moi, où les étudiants réussissent à rentrer pour essayer d'échapper aux matraque des CRS.
Mais 68, Didier Lombard, c'est une période dont vous vous souvenez, vous avez eu l'impression de vivre un moment historique, une révolution.
C'était très intéressant parce que je rentrais juste dans le monde du travail, j'étais au labo de recherche depuis un an. Et donc, on avait du mal à comprendre ce qui se passait. D'abord, pendant la journée, on était dans notre lieu de travail, et là, il y avait des réunions démocratiques de département qui débattaient de tout et rien toute la journée. Ça s'est d'ailleurs terminé par un épisode assez drôle, parce que à un moment, le personnel a décidé d'élire démocratiquement le chef du département. Et le plus drôle, c'est que celui qui a été élu, c'était le chef institutionnel normal. Donc la démocratie a redonné le pouvoir à celui qui l'avait institutionnellement. Ça, c'était amusant. Et le soir, on allait dans le quartier latin, à la Sorbonne ou ailleurs, parce que là, il y avait une richesse de slogans, d'ailleurs qui apparaissent souvent, on en a entendu certains, mais les graffitis étaient extraordinaires, avec des slogans qu'on pouvait pas imaginer inventer.
C'était sous les pavés à la plage,
une créativité de publicitaire extraordinaire. Et puis au milieu de tout ça, il y avait effectivement les manifs avec les charges de CRS, etc., dont on essayait quand même de pas se trouver entre les deux, parce que ça pouvait arriver. Donc la journée passait dans une série d'étonnements. Étonnement pendant la journée de voir... finalement les agents techniques d'un labo qui se mettent à s'exprimer, à parler, à critiquer, et puis à la fin finalement reconstruire une réalité pas très différente de celle qu'ils avaient. Et puis le soir, la créativité extraordinaire de ce qui se passait dans le quartier latin, quelquefois un peu violente, il faut le dire. Voilà,
mais vous avez eu l'impression de perdre un petit peu votre temps pendant cette période-là?
Non, parce que, attendez, il y a eu avant et après. C'est-à-dire que toutes les règles dans lesquelles, par habitude, on était, ont été chamboulées. Puisque les slogans, en fait, il faut bien voir que ça a apporté derrière des changements d'organisation, des changements de comportement. Et ces slogans-là, ils sont restés dans la tête des gens. Même s'ils n'ont pas appliqué exactement derrière les pavés, la plage, etc., etc. Mais si vous voulez, ça a changé complètement le mode de fonctionnement de la société. Et on voit bien, même parmi nos amis, on voit bien qu'il y a les héritiers de mai 68. Même maintenant, on le voit. Parmi les gens ça a changé tout, en fait.
Alors votre révolution à vous, elle est plutôt dans l'espace, la conquête de la Lune, la lutte entre Américains et Soviétiques pour la suprématie, les premiers satellites de télécommunication, l'arrivée des semi-conducteurs, la microélectronique. On voit à cette époque se dessiner l'an 2000 où on va un peu à l'aveuglette.
Non, on voit déjà des grandes lignes. D'abord, il y a la bataille de l'espace qui a commencé à être... c'est ce qui a été le plus structurant. Et c'est là où... Europe a été quand même apporté beaucoup de choses, parce qu'en fait on se rend compte que pour que l'espace européen se développe, il fallait que l'électeur de base, l'auditeur de base soit passionné par l'espace. Et en fait la voix d'Albert Ducrot, ça a porté extraordinaire. C'est un agent électoral extraordinaire. Ce qui a permis à Curien de demander des budgets, de les avoir, de créer des tas de choses. C'était fantastique.
Alors on va leur écouter, Albert. Et à ses côtés, il y a un monsieur que vous avez côtoyé, qui était ministre de la Recherche et qui s'appelle Hubert Curien. Et c'était à une occasion bien particulière. En avril 92, c'était le 50e tir réussi d'Ariane. Et c'est à Kourou.
Vous êtes en ligne, Claude Bellet, avec vos invités autour de vous. Et après, bien sûr, le tir réussi, le 50e tir réussi la nuit dernière de la fusée Ariane. À mes côtés à Paris, Albert Ducrot, dont on a pu une fois de plus mesurer l'enthousiasme après ce tir réussi sur l'antenne ce matin. Vous avez la parole, Claude.
Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Nous sommes en fait revenus à Cayenne, rejoindre sur place Monsieur Hubert Curien, le ministre de la Recherche et de l'Espace, qui a assisté hier soir, comme nous tous, au 50e tir d'Ariane. Un succès tout à fait remarquable, un de plus, allais-je dire, tant nous avons pris l'habitude maintenant de voir ces lanceurs européens accomplir leur mission sans aucun problème. Alors pour Monsieur Curien qui est avec nous, c'est tout de même une date un petit peu importante hier soir, parce que vous retrouviez en fait votre portefeuille de l'espace, Monsieur Curien, qui avait été confié un temps à Monsieur Paul Quillès. Donc autant dire qu'hier soir, vous étiez sans doute tout de même un tout petit peu tendu.
On est tendu à chaque tir, c'est bien évident, et Albert Ducrot le sait bien. Bonjour Monsieur Ducrot.
Bonjour Monsieur le ministre.
Chaque tir est un peu une aventure. C'est pas une aventure technique, c'est une aventure sentimentale. Voir ce lanceur décoller et amener en orbite deux satellites, c'est toujours un moment d'émotion. Pour moi, c'est un peu comme un accouchement.
Alors, un petit mot des satellites qui ont été donc placés sur leur orbite. Eh bien, tout va bien pour eux aux dernières nouvelles. Ils sont maintenant eux-mêmes devenus indépendants et vont gagner leur orbite définitive. Ils ont pour cela naturellement des moteurs qui sont alimentés par des carburants qu'ils avaient embarqués. Et on pense que si tout se passe bien, eh bien dans 5 à 6 jours, ces deux satellites Télécom 2B et Inmarsat 2F4 pourront déployer leurs panneaux solaires et entrer progressivement en fonction.
Quelques mots d'Hubert Curien, le ministre de la Recherche, vous avez travaillé avec lui.
Mais c'est lui qui, le premier, m'a nommé directeur. Je suis sorti des PTT, enfin des télécoms, lui qui m'a amené au ministère de la Recherche comme directeur. Donc c'est un homme pour qui j'ai une affection particulière. C'était vraiment un grand visionnaire de l'espace. Il a fait énormément de choses. C'est un homme exceptionnel. Et là, le tir que vous avez évoqué là dans l'extrait sonore, j'y étais. Parce qu'un des deux satellites, c'était un des miens. Donc j'étais à Kourou. Là,
c'était lequel, le vôtre?
C'était le 1B, le 2B, le Télécom 2B, qui était un des satellites que nous avions fabriqué pour France Télécom à cette époque-là.
Les rapports que vous avez eus avec les différents ministres de la Recherche, ça s'est déroulé comment? Ils ont été de droite, ils ont été de gauche?
Le ministre de la Recherche, je n'en ai eu qu'un, qui était Hubert Curien.
Ministre scientifique.
Les ministres de l'Industrie, j'en ai eu une petite douzaine, parce qu'il y a un taux de rotation assez fort. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, ils ont tous été assez exceptionnels dans la façon dont ils ont mis en place une politique qui avait des éléments de continuité. Chacun y apportait évidemment sa conception politique, ce qui est bien normal. Et une compréhension de problèmes qui était quand même assez compliqué, parce que l'industrie, c'est quelque chose qui est un peu difficile. L'intervention de l'État dans l'industrie, c'est quelque chose qui se décrète pas. C'est quelque chose qui doit être suffisamment habile et subliminal pour ne pas casser les influences du marché.
Une fusée qui part, ça vous remue toujours?
C'est ce que disait Hubert Curien, c'est affectif. C'est quelque chose qu'on ressent dans son être. Parce qu'on sait très bien que c'est une accumulation tellement extraordinaire de choses qu'on a évidemment rationalisées, mais il y a toujours un petit risque. Donc on le sent toujours avec une émotion plus profonde que n'importe quoi.
Une pause de pub et on se retrouve en compagnie de Didier Lombard, patron de France Télécom.
Marc Tronchot.
Retour dans le studio des enfants d'Europe 1 avec le patron de France Télécom, Didier Lombard, un enfant d'Europe 1. Dans votre boulot, il n'y a pas forcément beaucoup de romantisme, vous m'avez dit il n'y a pas si longtemps. Vous permettez pourtant à des personnes de se parler, c'est romantique ça?
Oui, on reconstruit la connectivité, la liaison entre les gens, que la société dans laquelle on vit a tendance à casser. C'est-à-dire que dans la vie, il y a quelques années, il y avait une vie de quartier, une vie de village, et avec une solidarité. Bon, la société globalisante dans laquelle on est a tendance à casser ça, parce que tout le monde est face à des combats, avec des contraintes qui lui viennent d'ailleurs, et on isole les gens. La canicule a été un exemple parfait de ça. Les télécoms, c'est fait pour réintroduire de la connectivité au milieu de tout ça. Et ça, c'est un credo très fort que j'ai. C'est un objet social de l'entreprise, beaucoup plus fort que tout le reste.
Quand vous voyez des gens sur le trottoir, tous avec leur portable fiché à l'oreille, vous vous dites qu'ils sont en train de parler et que c'est ça le plus important.
Ben, en fait, ils parlent, mais ils parlent avec d'autres qui sont dans la même tribu. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que nos clients, ils se constituent petit à petit en groupe. Alors ça peut être le groupe familial, ça peut être les copains de l'école, ça peut être les gars qui sont fanatiques de tel et tel match de football ou autre chose, mais ils reconstituent des communautés. Et ça, c'est important.
Alors il y a une tribu à laquelle vous appartenez, c'est celle des aficionados, la tauromachie. En bon Nîmois de souche, vous en êtes un spectateur averti. Et c'est un point commun que vous avez avec l'écrivain Jean Lacouture. Écoutez, c'est dans l'émission d'Alexandre Fronti, Le pays d'où je viens, fin des années 70.
Jean Lacouture. 56 ans, l'allure d'un jeune homme un peu fatigué, un long nez sur un visage fin, le sourcil en bataille et l'œil perçant, souvent habillé de costumes de velours, Jean Lacouture est un Bordelais bon teint qui a vécu en Gironde jusqu'à l'âge de 20 ans. Son père était chirurgien, à l'occasion chirurgien des arènes, car il était un aficionado, un amateur de courses de taureaux. À l'époque, il est vrai, on y allait en famille, avec les enfants, le dimanche, tout le peuple au coude à coude, chartrons et ouvriers réunis pour assister aux mises à mort. Le petit Lacouture aimait bien ça, il ne s'en est jamais lassé, il est même devenu un spécialiste.
Ma mère, qui était une femme extrêmement pieuse et extrêmement convenable, allait avec son mari, mon père, au corrida. Elle n'y voyait pas particulièrement malice. Et moi, on m'y a emmené à peu près à l'âge de 13 ans. Je continue à la considérer comme une drogue irrésistible et je ne peux pas m'empêcher d'y vibrer, quelquefois d'en sortir dégoûté, mais quelquefois aussi assez ébloui pour avoir envie d'y revenir l'année suivante. Je crois que c'est à la fois une atmosphère éminemment pathétique, le climat de mort, mais je crois que c'est surtout la beauté plastique. Je crois qu'il y a dans cette façon pour l'homme de se saisir d'une masse brutale et de la transformer en quelque chose de souple et de doux, si vous voulez, il y a quelque chose qui est extraordinairement séduisant. C'est enivrant, n'est-ce pas, que l'immobilité puisse l'emporter sur la furie, si vous voulez, ou la fougue, que la lenteur de l'homme l'emporte sur la fougue de la bête. Il y a quelque chose là qui est irrésistiblement beau. Cette danse où la plus grande qualité est l'immobilité et la lenteur, c'est une chose que je trouve très belle, mais cela peut être aussi horrible, bien entendu. Quand j'étais petit, la vue du sang ne m'a pas particulièrement impressionné. Ça me paraissait quelque chose de tellement fabuleux que c'était le sang des autres, c'était très loin. Je ne sais pas, enfin, un enfant n'a peur de rien. Vous savez, moi, à 13 ans, ce sang de ce taureau, c'était un animal fabuleux pour moi. C'était rouge, mais je ne liais pas tout à fait ça. On aurait égorgé un poulet à côté de moi, ce qu'on faisait quelquefois, ou un canard, ou je ne pourrais pas pu le supporter. Et le cochon, on tuait le cochon à la campagne chez moi, tous les ans, je ne pouvais pas supporter ça. Le taureau, c'était autre chose. Ça faisait partie. C'était sur scène, c'était comme voir tuer Desdémone sur scène ne me faisait pas particulièrement peur, ou Camille, mais le taureau aussi, c'était une sorte de tragédie qui se passait là, où il y avait du rouge qui coulait, mais c'était pas vraiment du sang. Et je suis arrivé, je dois dire aussi, à une époque de la tauromachie, où les chevaux avaient le caparaçon. Donc je n'ai jamais vu, ce qu'on racontait beaucoup chez moi, qui écartait certains, c'était que les chevaux étaient éventrés. Mais à partir de 1928-29, on a mis des caparaçons aux chevaux, et alors là, ils ne sont plus éventrés, donc il y a plus cet aspect-là des choses.
Et expliquez aux Bretons que je suis pourquoi le Nîmois que vous êtes aime la tauromachie. C'est culturel, vous sentez totalement d'accord avec tout ce que vient de dire Jean Lacouture, j'imagine.
Oui, bah, il a un talent. Moi, je n'ai pas le talent qu'il a pour raconter ça, mais quand vous y vivez à Nîmes, avec les arènes, les grands événements de Nîmes, c'est quand même la feria, c'est les corridas, c'est ça qui animait à cette époque-là la ville. Et ça, c'était formidable d'aller assister à ces corridas avec les grandes vedettes de ce temps que je ne sais pas si les gens se souviennent des noms, mais il y avait Dominguín, Ortega, etc., El Cordobés, etc. Et ce qui était le plus amusant, c'était les réunions des clubs d'aficionados après la corrida, qui disséquaient chacune des passes pour dire, ah, il a bougé un pied, il a fait tel truc, il a fait ça, ah non, ça c'est pas orthodoxe, etc. Et moi j'adorais assister à ces joutes. D'abord, ça a amélioré ma connaissance, parce que c'est un art, en fait. Hein. C'est pas aussi simple que ce que le touriste peut voir. Et voir ces gens s'étriper sur des petits détails, c'était amusant comme tout. Et tout ça, c'est la vie collective nîmoise très, très intéressante.
C'est culturel, en fait.
C'est culturel, exactement. Maintenant, j'ai plus le temps d'y aller. Mais comme j'ai acquis un opérateur mobile en Espagne, maintenant je pense que je vais y retourner. J'ai un peu plus de temps.
Vous pourriez marier l'utile et l'agréable. Vous avez une autre caractéristique, disait Lombard, vous aimez bien marier le numérique et le naturel. Un homme de la terre et du ciel, si je puis me permettre de parler ainsi. Parlez-nous un petit peu de ce jardin que vous cultivez, c'est en Sologne, on ne va pas en dire plus, et que vous cultivez au propre comme figuré. Alors quoi? Comment vous mariez les deux choses? Expliquez-moi.
Je fais les choses d'une façon que dont je pense que les jardiniers professionnels ou les paysagistes professionnels trouveraient que c'est une hérésie. En fait, j'essaye de concevoir à l'avance la forme qu'aura le paysage 10 ans après ou 15 ans après. Ça se fait très facilement avec
sur ordinateur.
Quelques programmes d'ordinateur que j'ai. Bon,
ouais.
Je connais les taux de croissance de certains arbres, les couleurs, etc. Puis après, j'ai qu'à laisser dérouler les programmes. Je sais ce qui va se passer dans 10 ans, à l'automne, quelles sont les couleurs qui arrivent. Bon. Et J'adore fabriquer des palettes, imaginer des alignements, enfin, faire des choses comme ça. Et avec ma femme, on est tous accros de ça. Le dernier week-end, on est allé à l'Arboretum des Bars. On a acheté 50 arbres pour compléter notre collection. Alors, notre problème, c'est que bientôt, on n'a plus de place. Mais...
D'où le tracteur que vous évoquiez tout à l'heure.
Ah oui, alors, tout ça, ça nécessite
que
de l'entretien. Que vous
conduisez, il n'est pas automatique.
Non, il est automatique. Il n'est pas automatique. Je garde tout l'entretien des pelouses, c'est moi qui le fais. Parce que c'est absolument essentiel de garder des tâches manuelles, de les faire, de pouvoir contempler nature, vivre au milieu. Comme ça, pendant les week-ends, ça me permet de prendre de l'oxygène. Et c'est là où je pense à la suite du film en ce qui concerne mes activités professionnelles.
C'est le havre de paix.
C'est le havre de paix.
Le laboratoire de la pensée.
C'est le laboratoire de la pensée.
Mmh. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, ça vous dit quelque chose?
Oui, on peut dire. Oui. C'est un beau poème.
Oui, c'est un célèbre titre de Georges Brassens, enregistré pour le comte Jean Leloup, écrit par un autre homme de terroir, René Fallet. Et ça a été enregistré ici à Europe 1. Et on va peut-être terminer l'émission avec ça.
Je vais plaquer mon chêne comme un saligo. Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant les frênes des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon âme.
Alors je sais que vous préférez l'opéra baroque, mais Brassens c'est pas mal non plus, non?
C'est très très bien.
Alors il y a une autre chose, c'est juste comme ça pour info, l'homme qui plantait des arbres, c'est une nouvelle de Jean Giono, vous la connaissez, non?
Oui, absolument. Ouais.
Elle a été laissée libre de droit par son auteur pour qu'elle soit traduite dans le monde entier et qu'elle participe à la naissance de ce que Giono appelait une politique de l'arbre. On reparlera de Giono dans une autre émission des Enfants d'Europe 1.
C'est essentiel parce que l'arbre c'est le futur.
Merci Didier Lombard d'être passé à Europe 1.
Merci.
Vous êtes chez vous, dans les Enfants d'Europe 1, dont vous faites partie. À dimanche prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, bonne fin de week-end, bonne semaine et bonne radio.
Bonne semaine, Marc Ronchaud, et à dimanche prochain.